Chapitre 5. Elle trouve Rum sur le quai de chargement, à l'arrière du Purity Supreme. 10 heures du soir, et la chaleur vous tombe encore dessus comme une couverture passée dans une étuve. Le quai de chargement sent la laitue flétrie et les bananes si mûres que leur peau éclate. Rum est en train de fumer une cigarette et de boire une grande canette de bière avec les autres vauriens du supermarché qui viennent de terminer leur service au rayon fruits et légumes ou au rayon traiteur ou à l'emballage. La force du nombre met une lueur de courage dans son regard quand Mary Pat sort de Bess, et cette lueur se transforme en amusement quand la portière de Bess grince et que le moteur s'arrête dans une sorte de spasme. Bess, c'est le break tas de ferraille qu'il lui faut conduire jusqu'au moment où il rendra l'âme. Ce n'est pas qu'elle roule beaucoup, mais de temps en temps, elle ne peut pas faire autrement. Elle aurait pu venir à pied jusqu'ici, mais elle est obsédée par la vision de ses phares balayant l'arrière du quai et faisant détaler tous ses bons à rien comme des rats. Sauf Rum, qu'elle heurte avec son pare-choc ou une portière. Elle a simplement oublié une chose, c'est que Bess produit sur à peu près tout le monde un effet plus comique que menaçant. Bess est un Ford Country Sedan bicolore de 1959. L'arrière est affaissé comme le cul d'un vieux clébard, la rouille et le sel de déneigement ont mangé les bords des passages de roues, ainsi que la peinture du tiers inférieur de la caisse. La galerie du toit a depuis longtemps disparu, personne ne se souvient quand ni où. Les deux feux arrière sont cassés, mais en état de fonctionnement, et le tuyau d'échappement ne tient que grâce à quelques « Je vous salue Marie » et de la ficelle de boucher tout effiloché. À peu près la seule chose que l'on puisse encore dire en faveur de Bess, c'est que c'était une voiture géniale pour voyager avec les deux enfants. Elle a un V8 352 sous le capot qui la transforme en fusée sur l'autoroute et la radio fonctionne. Autrefois, Bess présentait deux nuances de vert, April et Sherwood. Mais désormais, les deux couleurs sont tellement passées qu'on est obligé de croire Mary Pat sur parole à ce sujet. Quand elle sort de Bess, les garçons se marrent dans le faisceau de ses phares, à l'exception de Rum, qui se contente de la regarder s'approcher avec un sourcil levé, qu'elle songe à lui arracher de la figure, tandis qu'il engloutit la bière de sa maxi-canette. Elle ne s'embarrasse pas de préambule. « Où est Jules ?»«
Comment je saurais ?»«
Ne laisse pas la bière te rendre trop stupide maintenant, Ronald. Tu pourrais confondre ta bêtise avec du courage.
Quoi ?»«
Où est ma fille ?»«
Je sais pas. » »«
Quand est-ce que tu l'as vue pour la dernière fois ?»
Hier soir.
Où?
À Carson Beach.
Et après?
Après quoi?
Où est-elle allée?
Elle est rentrée à la maison.
Tu as laissé ma fille rentrer à pied dans ce quartier à 1 heure du matin?
Il était 00:45.
Tu as laissé ma fille rentrer à pied dans ce quartier à 00:45 du matin? Il lève la canette à ses lèvres. D'une claque, elle lui fait tomber la canette de la main.
Toute seule?
Plus personne ne se marre sur le quai. Elle connaît leur mère. Ils la connaissent. Ils sont tous aussi silencieux que des gens sur un banc d'église attendant leur tour pour passer au confessionnal.
« Non, non !» s'empresse de dire Rum. « Elle n'était pas seule. George l'a ramenée en voiture. »«
George Dunbar ?»«
Ouais. »«
Le dealer ?»«
Quoi ?»« Oui. »«
Il a raccompagné ma fille en voiture. »
Oui, j'étais trop bourrée.
Elle recule d'un pas, le jauge ostensiblement. Tu seras où dans 1 heure?
Quoi?
Je t'ai posé une putain de question.
Je serai, disons, chez moi.
Disons, chez moi? Ou chez moi?
Chez moi. Je rentre chez moi.
Elle remarque son coupé Plymouth Duster orange vieux de 4 ans sur le parking des employés. Elle a toujours détesté voir cette voiture comme si elle avait toujours su que son propriétaire était un oiseau de mauvais augure. « Si George ne confirme pas ton histoire, je vais revenir te voir. »«
Très bien, »
dit-il d'une façon telle qu'elle sait déjà qu'il a quelque chose à cacher. « Tu peux me le dire tout de suite ?»«
J'ai rien à dire. » »«
Ça vaudrait mieux pour toi si tu le disais tout de suite. »
« Pour moi ?» C'est bon comme ça.
Très bien. Elle lève les bras comme pour dire « C'est toi qui as choisi comment les choses allaient se passer à partir de maintenant. » Elle voit sa pomme d'Adam monter et descendre dans sa gorge, tandis qu'il déglutit. Mais ensuite, il baisse les yeux sur ses chaussures et la canette de bière qu'elle a fait tomber de ses mains. Elle remonte dans sa voiture et ils la suivent tous du regard, les yeux écarquillés, tandis qu'elle fait marche arrière et quitte le parking. George a été un familier des Fennessy pendant une dizaine d'années. Il allait et venait en permanence avec Noël. Et pendant tout ce temps, elle n'a jamais eu l'impression qu'elle se faisait une image claire de lui. C'était comme si une partie de lui n'était pas là quand on essayait de la trouver. Elle en avait parlé une fois à Ken Fenn et il lui avait dit
« La plupart des gens qu'on connaît sont comme des chiens. Il y a ceux qui sont loyaux, ceux qui sont méchants et ceux qui sont gentils. Mais tout vient du cœur, le bon comme le mauvais. »
Et il appartient à quel genre de chien, George Dunbar ?
« À aucun », avait répondu Kenny. « C'est un putain de chat. »
Elle braque son regard maintenant sur ce chat qui n'a même pas fait l'effort de se montrer à l'enterrement de Noël. Pourquoi Rum mentirait-il ?
Je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe dans la tête des autres.
George Dunbar a fait 2 ans d'université. Il étudiait les sciences économiques. Il n'a pas abandonné parce qu'il n'y arrivait pas. Il a abandonné parce qu'il gagnait trop d'argent en vendant de la drogue. Ses oncles dirige une société spécialisée dans le béton et Mary Pat a toujours entendu dire que George s'est vu promettre le tiers de l'affaire qui appartenait à son père aujourd'hui décédé. Mais il préfère vendre de la drogue. Pour un enfant de ça aussi, il parle comme certains riches qu'elle a rencontrés au fil des années, comme si ses mots et ceux de Dieu venaient de la même source, tandis que les vôtres proviennent d'un endroit qui ne figure sur aucune carte qu'on puisse voir ou entendre. Donc, tu ne l'as conduite nulle part ?
Non. Elle est partie à pied pour rentrer chez elle vers 00:45.
Et tu as laissé une fille de son âge rentrer chez elle seule à pied dans ce quartier ? George lui lance un regard de pure perplexité.
Je ne suis pas son gardien.
Ils sont assis dans le belvédère de Marine Park, de l'autre côté de Day Boulevard. Pleasure Bay est baigné d'un clair de lune poisseux. George Dunbar a été facile à trouver. La plupart du temps, le soir, on le trouve assis dans ce belvédère de Marine Park. À ça aussi, des flics jusqu'aux gosses, tout le monde le sait. Encore une preuve qu'il a des protections. Si vous voulez de la drogue, vous allez au belvédère et vous voyez George Dunbar ou un des jeunes qui travaille pour lui. Elle se surprend à souhaiter que sa mère se fasse coincer en train de tromper Marty Butler et qu'elle se fasse virer à coups de pied dans le cul. Et que 2 jours plus tard, quelqu'un vienne défaire la coiffure bien soignée de George Dunbar en lui collant une balle dans sa putain de tête. « Qu'est-ce que vous avez tous fabriqué hier soir ?» lui demande-t-elle. Il hausse les épaules, mais elle le voit regarder vers les arbres un instant, signe qu'il réfléchit à sa réponse au lieu de répondre tout simplement.
On a tous bu quelques bières dans le parc à Columbia, puis on a marché jusqu'à Carson.
Quand ?
11h45.
Elle est surprise de voir des jeunes être aussi précis. Généralement, ils arrondissent les heures. J'étais là à midi, à 1h, à 2h. Mais cela... Little Peg, Rum et maintenant George Dunbar répètent sans arrêt 11h45 ou 00:45, comme si, la nuit en question, ils avaient eu les yeux braqués en permanence sur une montre qu'ils n'ont pas. 2 jeunes à vélo et un hippie dans un van Volkswagen patientent non loin du belvédère et les observent, attendant que Mary Pat s'en aille pour pouvoir acheter. George les remarque.
« Faut que j'y aille. »
« C'était ton ami. »«
Quoi ?»«
Noël, » dit-elle. Il te considérait comme son ami.
J'étais son ami.
Tu tues tes amis ?
Foutez-moi la paix, dit-il très tranquillement. Et ne revenez pas, Madame Fennessy. Elle tend la main et lui tapote le genou.
George, s'il est arrivé quoi que ce soit à ma fille et que tu y es mêlé,
j'ai dit, foutez-moi, Marty ne pourra pas te sauver.
Personne ne pourra te sauver. Jules, c'est mon cœur.
Elle serre son genou un peu plus fort.
Alors ce soir, prie, à genoux, George. Prie pour que mon cœur réapparaisse sans une égratignure. Sinon, il se pourrait bien que je revienne et que je t'arrache le tien de ta putain de poitrine.
Elle plonge son regard dans ses yeux éteints jusqu'à ce qu'il cligne des paupières. Au volant de Bess, elle passe devant la maison des Collins, mais la Plymouth Duster orange de Rum n'est pas là.
Ça ne fait rien. Ça aussi n'est pas grand si vous roulez dans une voiture orange.
Elle repère la Plymouth Duster 20 minutes plus tard, garée devant le Fields of Athenry, le bar que tout le monde, conformément à l'usage dans Southsea, appelle simplement le Fields. C'est le fief de Marty Butler. Vous n'y entrez pas si vous n'êtes pas de Southsea, et vous n'en ressortez pas sur vos deux jambes si vous vous y comportez d'une manière ne serait-ce qu'un tout petit peu incorrecte. En 10 ans d'existence, il n'a jamais été bondé, même le jour de la Saint-Patrick, et il n'a jamais connu la moindre bagarre. La seule personne connue pour avoir voulu se faire une ligne dans les toilettes a eu le nez cassé en plein milieu de son sniff par Frankie Toomey, alias Tombstone, alias le tueur des tueurs de la bande de Butler. Elle va à garer Bess dans Tuckerman Street et revient à pied. Elle trouve Rum, assis au coin du bar, en train de boire une bière avec un petit verre de whisky. Ils traînent tous ici, tous ces garçons qui ont quitté le lycée sans projet et qui ont tout juste plus de couilles que de cervelle pour être, à l'occasion, utiles à Marty. Elle commande la même chose que Rum. En attendant d'être servie, elle l'ignore, bien qu'elle sente qu'il a les yeux fixés sur elle et qu'il respire superficiellement par la bouche. Du regard, elle fait le tour des autres gars dans le bar. Tim Gavigan, le jeune qui lui a apporté les pancartes, est là. Elle croit repérer Brian Shay là-bas dans le fond et, sans le moindre doute, elle remarque Head Sparks, qui a fait 2 ou 3 trucs avec Dukie dans le temps. Il y a aussi quelques autres types qu'elle reconnaît, mais dont elle ne pourrait dire les noms comme ça, des types qui font partie du milieu. Le barman, Tommy Gallagher, de Baxter Street, lui apporte ses boissons, prend l'argent, puis les abandonne, elle et Rum, à eux-mêmes. Elle avale son petit verre d'alcool, se tourne vers Rum, prend une gorgée de sa chope de bière. Tu m'as menti. C'est pas vrai?
Bien sûr que si. George n'a pas raccompagné Jules à la maison.
Tout d'abord, je vous ai dit qu'elle était rentrée à pied. Mais comme ça vous a mis en rogne, je vous ai dit que George l'avait raccompagnée juste pour que vous me lâchiez un peu.
Il hausse les sourcils, puis les abaisse, tandis qu'il ingurgite sa bière. Donc, elle est rentrée seule, à pied. Il regarde son verre.
C'est ce que j'ai dit, bordel!
C'est ta version.
Ouais, c'est ma version. Pourquoi vous?
Quand elle lui brise le nez avec son poing droit, ça fait le même bruit sec qu'une boule de billard lors de la casse. Tout le bar l'entend. Il pousse un hurlement de fille et elle le frappe de nouveau exactement au même endroit, faisant passer son poing entre les mains de Rum qui couvrait mollement son nez. Puis, elle lui donne un coup sur l'œil, faisant participer son poing gauche cette fois. Il dit quelque chose comme « Attendez !» et aussi quelque chose comme « Putain de merde !» Mais à ce moment-là, elle est déjà en train de balancer des enchaînements dans cette foutue tête d'abruti. Œil gauche, œil droit, joue gauche, joue droite, 2 directs rapides sur son oreille gauche et 1 seul crochet dévastateur à la mâchoire. Une dent, jaune de nicotine et rouge de sang, jaillit de sa bouche. Ils viennent l'écarter de lui. Les mains qui l'agrippent sont dures, brutales. Elles envoient un message. On ne plaisante pas. Mais dès qu'il lui bloque les bras, elle se serre de ses jambes, aussi vite qu'elle peut. Elle lui donne des coups de pied au visage, dans la poitrine, dans le ventre. Puis, ses pieds frappent dans le vide. Il la traîne jusqu'à un tabouret de bar. Elle entend une voix qu'elle reconnaît lui dire
« Arrête ! Mary Pat ! Arrête ! S'il te plaît !»
Elle plonge son regard dans les yeux Ajax vitre de Brian Shay.
« Ça va, » dit-il. « D'accord ?»
Elle souffle. Les hommes qui la tiennent relâchent un peu leur étreinte, mais ils ne la libèrent pas complètement.
« Tommy !» lance Brian Shay au barman. « Resserre la même chose à Mary Pat. Et puis une tournée pour nous tous. »
Rum essaie de se relever sur les genoux, mais il s'effondre.
« Vous pouvez me lâcher, » dit Mary Pat doucement.
Brian baisse la tête pour la regarder dans les yeux.
« Sûr ?»«
Sûr. Je vais bien. »
Tu vas bien. »
Ça le fait rigoler.
Elle va bien,
s'écrie-t-il au type qui la tienne. Et tout le bar éclate de rire, un peu trop fort. Il fait un signe de tête à quelqu'un et les mains, il y en avait au moins 6, lâchent prise. Rum réussit à se mettre à genoux cette fois, mais il vomit et son vomi est tout rouge.
Putain! Peut-être qu'elle lui a perforé un poumon,
dit Pat Kearns.
Emmenez-le chez le toubib de G Street,
dit Brian.
Assurez-vous que le toubib a compris qu'il n'a pas droit au traitement cadillac. Celui-là, c'est la catégorie Dodge.
Dodge d'occasion. Il se met à le traîner vers la porte. Brian dit
« La sortie derrière, putain, bande d'abrutis !»
Il le traîne dans la direction opposée. Un moment après, ils atteignent la sortie de derrière, puis ils sont dehors, et le bar retrouve son niveau sonore habituel, ce qui, ainsi que Mary Pat l'a toujours considéré, suscite un sentiment trouble et inquiétant, mais produit néanmoins un agréable brouhaha.
C'est pas une broutille, ça, Mary Pat.
Elle avale son deuxième verre d'alcool de la soirée et regarde Brian dans les yeux.
Je sais. Tu as provoqué une bagarre dans le bar de Marty. Son sanctuaire.
C'était pas une bagarre, répond-elle.
Ah bon?
Elle secoue la tête.
C'était une dérouillée. Cette petite lavette n'a pas donné un seul coup.
Tu peux pas donner des dérouillées comme ça chez Marty. Si t'étais un mec, tu serais morte. Ou, tu sais, au moins plâtré jusqu'au cou.
Bon, alors mets-moi dans un plâtre jusqu'au cou. Mais attends d'abord que j'ai retrouvé ma fille.
Il plisse les paupières. Avale son petit verre d'alcool.
Jules ?
Ouais.
Elle est où ?
C'est la question que je pose. Personne ne l'a vue depuis hier soir.
Pourquoi tu ne l'as pas dit ?
Je l'ai dit.
Elle pointe le pouce vers le sang et le vomi que Rum a laissé derrière lui.
« À lui !»
Il grimace.
« Ce pauvre couillon !» Demander un renseignement à ce type, c'est comme commander une pizza viande hachée fromage à un poteau téléphonique.
Il pointe deux doigts sur sa poitrine.
« C'est nous qui apportons une aide. C'est nous qui rendons des services dans ce quartier. Nous !» On aurait pu chercher Jules toute cette journée si tu nous l'avais demandé. Personne n'a oublié ce que t'as fait pour nous. Ce que Duki a fait pour nous. On est là pour toi, Mary Pat.
Il sort un petit carnet de notes et un crayon. Il humecte le bout de son crayon, tandis qu'il ouvre son carnet sur le comptoir avant d'ajouter
« Dis-moi tout ce que tu sais. »
Une fois qu'elle a terminé, il dit «
Pour ce que tu as fait ce soir. Je vais arranger ça avec Marty. »
Il remet son carnet et son crayon dans la poche de son barracuda.
mais faut que tu nous laisses 24 heures. 24 heures ?
Ça demandera pas tant que ça. Ça va prendre, disons, 3 heures.
Mais tu peux pas continuer à te balader comme ça en jouant les Billy Jack.
Sacré Mary Pat Jack, à dérouiller tout le monde.
Tu peux pas faire ça.
Ça va attirer l'attention.
Je peux pas rester assise à rien faire pendant 24 heures.
Il soupire bruyamment.
Alors, donne-nous jusqu'à, disons, 5 heures demain. Une journée complète.
Laisse-nous ça pour qu'on te la retrouve.
Tu fais pas de vagues. Et surtout, tu vas pas voir ces putains de flics. Tu nous laisses travailler pour toi.
Elle allume une cigarette, la tourne entre ses doigts plusieurs fois. Elle ferme les yeux.
C'est beaucoup demandé.
Je sais bien. Mais avec cette connerie de Bussing et ce nègre-là qui s'est fait tuer hier soir, on n'a pas besoin qu'un regard extérieur de plus vienne fouiner dans le quartier. Parce qu'il pourrait avoir l'idée de demander comment ça fonctionne vraiment. Comment les choses se passent vraiment. Et on ne peut pas laisser faire ça, Mary Pat. On ne peut absolument pas.
Elle jette un coup d'œil autour d'elle dans le bar. Elle sent que tout le monde avait les yeux fixés sur eux deux, mais s'empresse à présent de faire semblant de regarder ailleurs. Elle se tourne de nouveau vers Brian Shay.
Demain, 5 heures. C'est ma limite de brave petite fille obéissante.
Brian fait signe à Tommy de remettre une tournée.
Très bien.